Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, on va faire une petite session de rattrapage avec tout plein de titres des éditions Delcourt-Oncam. Donc on aura la présentation du light novel Ce qu'il reste de nos souvenirs, la chronique du volume 2 de L'homme qui tua Nobunaga, la présentation du manga L'île aux escaliers, on aura aussi la présentation du manga Brynhild in the Darkness, la chronique du volume 6 de Harry Furuta de Zero à Hero, et la présentation de Harry Furuta Origin. Et parmi tout ça, on aura un petit point sur les sorties manga de la semaine, et on continuera à parler culture avec les secrets du saké. On va tout de suite commencer avec la première chanson de l'émission, c'est Ryusei de Sandaime Jisoul Brothers from Exile Tribe, et on reviendra juste après pour la présentation du light novel Ce qu'il reste de nos souvenirs.
Yeah.
Donc c'était Sunday Meiji Soul Brothers from Exile Tribe avec la chanson Ryusei. On passe maintenant à la présentation du light novel Ce qu'il reste de nos souvenirs, du titre original Shichigatsu no Teromea ga Suriku Made. Alors c'est un light novel de genre drame, romance, vie scolaire, tranche de vie qui a été écrit par Natsuki Amasawa. La version japonaise est parue en 2018 aux éditions Kadokawa Shoten avec un tome qui termine la série. Et ce one-shot est paru en France le 16 juin 2021 aux éditions Delcourt Tonkam, dans leur collection Moonlight. Vous pourrez retrouver Ce qu'il reste de nos souvenirs dans le commerce pour un prix de 12,50€. L'âge conseillé pour le lire est de 12 ans et il n'existe pas d'adaptation en animé. Lorsque la mémoire nous fuit, il faut savoir se raccrocher au présent pour continuer à vivre. Un light novel sous forme de tragédie romantique. Donc le résumé de ce light novel... Chou, un lycéen asocial, ramasse un jour une clé USB appartenant à une camarade de classe, Naoka. Après avoir constaté que cette clé contenait un testament, il engage la conversation avec la jeune fille et apprend qu'elle souffre d'amnésie progressive. Il fera donc tout pour l'aider à vivre avec son mal, sans se douter qu'ils sont liés par le destin depuis très longtemps. Voilà, donc le light novel « Ce qu'il reste de nos souvenirs » à retrouver aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Amazing Blessings de Satou Sotomi, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de L'Homme qui tua Nobunaga.
Wazuka na hikari.
Donc c'était Sayuri Ishikawa avec la chanson Utsugomori Omisoka. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de L'Homme qui tua Nobunaga. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action, aventure, drame, historique, qui a été écrit par Akechi Kenzaburo, dessiné par Todo Yutaka et prépublié dans le Young Champion. La version japonaise est parue aux éditions Akita Shoten avec un total de 8 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 4 tomes. Ce volume 2 est sorti le 3 février 2021 au prix de 7,99€. Ce récit haletant met en lumière une nouvelle thèse qui bouleverse tout ce que vous pensiez savoir au sujet de la vie de Dakechi Mitsuhide. L'histoire que nous connaissions tous serait-elle un mensonge ? Le résumé de ce tome, animé par une volonté commune d'imposer la paix au sein de l'Empire, Oda Nobunaga et Akechi Mitsuhide traversent ensemble les combats et les difficultés qui se dressent sur leur chemin. Cette fresque historique soigneusement documentée s'intéresse cette fois aux premières années de collaboration entre ces deux figures nimbées de mystère. Suivez donc le fil de leur destin entremêlé jusqu'au fatidique incident de Onuji, l'énigme la plus opaque et marquante de l'histoire du Japon. Après plus de 4 siècles, le voile est enfin levé sur les nombreux mystères qui planaient encore au-dessus de cet événement historique. Donc l'influence d'Oda Nobunaga ne cesse de s'étendre à travers le Japon. Épaulé par un Akechi Mitsuhide qui lui reste fidèle, son projet de créer un pays sans guerre prend davantage de force. Mais forcément, les réfractaires se montrent eux aussi, et c'est le cas du shogun Ashikaga Yoshiake, qui voit d'un très mauvais œil le pouvoir dont dispose celui qui le sauva autrefois. C'est ainsi que survient l'événement nommé l'encerclement de Nobunaga, auquel participa le redoutable Takeda Shingen, disposant de l'une des plus grandes armées du pays. Donc globalement, le premier tome de L'Homme qui tua Nobunaga a constitué une très bonne lecture, très instructive dans sa dimension historique pour une profane de l'histoire nippone. On pouvait néanmoins se montrer sceptique quant au portrait fait de Oda Nobunaga et Akechi Mitsuhide, de valeureux héros dont les opposants étaient montrés très caricaturaux. Donc, sachant que ce récit est initié par ce qui semble être un descendant d'Akechi, on peut logiquement se questionner quant à l'objectivité de cette vision historique. C'est en ayant donc ce dilemme en tête que la lecture se poursuit et celle-ci reste globalement toujours aussi efficace quand elle est prise avec le recul qu'il se doit. Une grande partie de l'opus vient narrer un événement appelé l'encerclement de Nobunaga, une période durant laquelle plusieurs belligérants s'opposèrent à l'un des unificateurs du Japon. C'est donc un récit guerrier qui ouvre cette suite, qui confirme les intentions de l'œuvre dans son ensemble. Après avoir dressé un bilan rapide du rapport entre les deux protagonistes dans le premier tome, Kenzaburo Akechi et Yutaka Todo prennent, cette fois, plus de temps pour aborder d'autres éléments majeurs. Quand bien même on douterait de certains aspects de la démarche globale de l'œuvre, cette manière de faire est plus que bienvenue, afin de nous faire comprendre les enjeux historiques d'époque et les deux figures que furent Oda Nobunaga et Akechi Mitsuhide. Pourtant, force est de constater qu'on reste toujours dans une certaine hagiographie. Encore une fois, les deux protagonistes sont montrés sans faiblesse ni reproche, sage et valeureux, charismatique et imposant. Cette mise en avant est efficace sur le papier, aussi il est difficile de ne pas s'attacher à ces deux camarades de conquête dans ce récit. Mais en tenant compte des figures historiques qu'ils sont, on regrette de nouveau que leur portrait soit si peu nuancé. Peut-être que la donne changera lorsqu'il s'agira de développer avec plus de précision l'incident du Onuji. Malgré ça, les auteurs parviennent à rendre un récit prenant et qui a pour mérite d'apporter quelques données historiques à un lecteur sans connaissance du sujet. Il est aussi difficile de ne pas être ému par tout le passage concernant la maladie de Mitsuhide, un segment qui met en avant son histoire avec son épouse, particulièrement forte. D'ailleurs, on apprécie le talent du dessinateur Yutaka Todo, qui s'est présenté visuellement un personnage vieillissant, ce qui fait le lien avec le portrait que certains faisaient de lui, qui aurait trahi son seigneur. Encore une fois, l'homme qui tue Nobunaga s'apprécie comme il se doit pour sa dimension historique globale et la portée graphique qui ne manque pas de panache, le dessinateur ayant un trait précis et parfois grandiloquent quand le récit s'y prête. On continue d'espérer un peu plus de nuances concernant les deux figures principales et on espère que cela s'appliquera aussi à Toyotomi Hideyoshi, celui qui trahit Akechi Mitsuhide, qui devrait prendre plus d'importance dans le troisième opus. Enfin, on se questionnera encore sur le sous-titre français, l'histoire de Yasuke le samouraï noir. Peu présent dans le premier tome, il est tout simplement absent de cette suite. Donc quand on sait que cet intitulé est tout bonnement absent de la version japonaise, difficile de ne pas voir une démarche racoleuse et pour le coup mensongère. Voilà, donc l'homme qui tue Nobunaga a retrouvé pour le moment en 4 tomes aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est I Wanna Cry de Sayuri Sugawara, et on viendra juste après pour la présentation du manga L'île aux escaliers.
ついてまた一人きりで朝まで泣いていたのにどうしたのとあなた笑顔で何もなかったような態度をした他の子の話を楽しそうにされるたびね不安になるのこの気持ちに気づいてほしいよ Baby, baby, I wanna fly 心の声聞いて思いやりなんていらないから本当の気持ちを聞かせてほしいの I'm in love with you後で電話するってあなた言ってくれたから嬉しくなってずっと待ってたそれなのに連絡は来なくていつものことだから慣れてるはずなのになぜか苦しくなるこの気持ちを分かってほしいよ Baby, I wanna fly 泣いて困らせたい優しい声でごめんなんてもう聞き飽きたの心の叫び気づいて
Donc c'était Sayuri Sugawara avec la chanson I Wanna Cry. On passe maintenant à la présentation du manga L'île aux escaliers, du titre original Inakunare Gunju Fragile Light of Pistol Star. Alors c'est un shonen de genre drame, mystère, psychologique, romance qui a été écrit par Kono Yutaka dessiné par Uzuki Ai avec le chara-design de Kushijima Agu et prépublié dans le G-Fantasy. La version japonaise est parue en 2018 aux éditions Square Enix avec un total de 3 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 16 juin 2021 aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight, avec pour le moment un seul tome de sortie. Vous pourrez retrouver L'île aux escaliers dans le commerce pour un prix de 7,99€, l'âge conseillé pour le lire est de 12 ans et plus, et il existe un light novel à l'origine de cette adaptation en manga, donc Inakure Gunjo, qui est paru en un tome au Japon, et on a aussi une adaptation en film d'1h45, Go Away Ultramarine, qui est sorti au Japon en septembre 2019. Entre prison dorée et lieu de tous les mystères, L'île aux escaliers n'a pas fini de livrer ses secrets. Donc le résumé de cette série, on raconte qu'au sommet des marches dont cette île tire son nom vit une sorcière et que tous ceux qui aspirent à quitter cet endroit doivent absolument trouver ce qu'ils ont pu perdre quand ils y sont arrivés. J'ignore de quoi il s'agit, mais ce dont je suis sûre, c'est que lorsque Manabe, une fille au regard déterminé, a débarqué ici, j'ai eu le sentiment que plus rien ne serait jamais plus comme avant. Voilà, donc L'île aux escaliers a retrouvé avec pour le moment un seul tome paru aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Koino Magic Portion de Skunch, et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
Tonight
Donc c'était Scanch avec la chanson Koino Magic Portion. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 13 octobre avec chez Boys Love IDP le volume 1 de Anti-Romance et le volume 3 de Zombie Hide Sex, donc deux sorties en partenariat avec la plateforme Anna. On aura ensuite aux éditions Panini la sortie du volume 5 de Banana Fish, la réédition 2021. Le volume 19 de Demon Slayer, on aura aussi un coffret collector Demon Slayer avec le volume 19 et le volume 2 du roman, ainsi que la sortie du volume 1 de Mars Red. Aux éditions Soleil, on aura la sortie du volume 2 de Black Marriage, le volume 4 de Coma Héroïque dans un autre monde, le volume 10 de Goblin School Twin, le volume 14 de Goblin School, le volume 2 de L'Appel des Montagnes et le volume 2 des Caprices de la Lune. Aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 4 de Blue Lock, le volume 5 de I Fell in Love After School, le volume 34 de L'Attaque des Titans qui sera le dernier tome de la série. On aura aussi un pack avec les volumes 1 et 2 de L'Attaque des Titans qui sortira. On aura bien évidemment une édition limitée pour ce tome 34 de L'Attaque des Titans. Ensuite, on a le volume 4 de The Fable, le volume 4 de Twilight Boon Anako-kun, le volume 1 de Un Assassin à New York, et le volume 22 de Yuna de la pension Yuragi. Aux éditions Nobinobi, on aura la sortie du volume 4 de Fukuneko, Les Chats du Bonheur, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 1 de Yuzu, La Petite Vétérinaire. Et aux éditions Hot Manga, on aura la sortie du volume 1 de Torokushisme. Pour jeudi 14 octobre, ensuite, on aura des sorties aux éditions Manabooks avec le volume 4 de Angels of Death et le volume 8 de Persona 5. Aux éditions Imo, on aura la sortie du volume 1 de Bambi, la nouvelle édition. Aux éditions Kurokawa, le volume 1 de Cléopâtre, destinée d'une reine d'Égypte. Le volume 3 de Dans l'ombre de Crimi. Le volume 4 de Demon Slave. Le volume 2 de Goblin Slayer, Brand New Day, qui sera le dernier tome de la série. Un coffret avec les volumes 1 à 3 de Goblin Slayer. Le volume 10 de Hippo de la saison 6. Le volume 1 de Marie-Antoinette, destin d'une reine de France. Le volume 3 de Moi quand je me réincarne en Slim, comment vivre chez les monstres. Le coffret numéro 2 de One Punch Man avec les volumes 1 à 3. On aura aussi le guide officiel de One Punch Man. Les volumes 1 à 5 dans un coffret de Pokémon Diamant et Perle. Le volume 2 de Wandering Witch et le volume 1 de Emile ou de l'éducation. Aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 3 de Comme un adieu qui sera le dernier tome de la série. Le volume 8 de En proie au silence qui sera également le dernier tome de la série, je vais y arriver, et le volume 1 de Goodnight World. Aux éditions Kiyun, on aura la sortie du volume 11 de Jujutsu Kaisen et le volume 1 du cauchemar d'Innsmouth. Et aux éditions Dynamite, on aura la sortie du volume 1 de Tokyo Confidential. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 15 octobre avec chez Mao Édition la sortie du volume 1 de Berserk of Gluttony. Donc vous aurez le volume 1 tout seul ou un coffret réunissant le volume 1 et le roman numéro 1 aussi de Berserk of Gluttony. Aux éditions Taifu Comics, on aura la sortie du volume 5 de Cased Even et le volume 3 de Killing Stalking. Aux éditions Shiba, ça sera la sortie du volume 2 de Colorless. Aux éditions Nazca, on aura le volume 5 de Dice, le volume 8 de Soul Land et le volume 12 de Tales of Demons and Gods. Ensuite, chez Instant Manga, on aura la sortie du volume 1 de Goku, la réédition. Aux éditions Kana, on aura le volume 1 de Goldorak, qui sera aussi disponible en édition limitée. Et enfin, la toute dernière sortie de la semaine, ça sera aux éditions H, avec la sortie du volume 1 de Room. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Three Words de Sage Keys. Et on reviendra juste après pour parler culture avec Les Secrets du Saké.
Pour ça, on sait comment attendre que les années apaisent les nez. J'ai qu'un souhait, j'ai mon honneur, y'a 그대가 곁에 있지 않을 때 외로웠죠. 한 순간도 난 널 잊었던 적 없다는 말이 무슨 의미겠어요. 지금 여기 우리
독한 세월과 세상에게 수없이 꺾이고 발밑은 낙엽이 비도 피고 이 야외의 모습이지만 여기 여전히 그대 곁에 서 있죠 I missed you 한순간도 편히 잠든 적 없어 잘 지낸 것 같겠지만 I missed you 한순간도 진짜 웃은 적 없어
한순간도 날 잊었던 적 없다는 말이 무슨 의미겠어요
지금 여기 우리 셋 다 나면 돼요
I just wanna be with you 내가 사는 이유 다시는 멀리 가지 않을게요 I'll always be here for you 세월이 지난 후 세상이 다시 갈라놔도 떠나야만 해도 멀리 잊진 않을게요 시간은 참 무섭게도 가네요 붙잡으려 해도 잡히지 않을 거예요 언젠가 다시 아침 되어도 여기 가까이 서 있을게
지금 여기 우리
Cause I just wanna be with you 내가 사는 이유
baby
다시는 멀리 가지 않을게요
Donc c'était Three Words de Sage Keys. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler des secrets du saké en nous basant sur le livre de Simon Mollard qui est paru aux éditions Iseki Nicho. Donc la dernière fois, je vous parlais de comment brasser du saké. On était rendu à l'étape numéro 10 donc du brassage. L'étape numéro 10, c'est donc la clarification. Donc si le pressage par Yabuta donne un saké plus clair que le pressage par Fune, le saké n'est pas encore transparent. Donc certains brasseurs cherchent à éliminer jusqu'au dernier résidu. Ceux-ci vont alors le clarifier grâce à du charbon. Les plus traditionnels utiliseront les tanins du kaki, un fruit qui est très répandu au Japon. Et cette clarification a un objectif marketing, puisque le public aime la pureté. Certains brasseurs peu regardants utilisent trop de charbon, ce qui ne laisse qu'un affreux goût d'alcool au saké. Mais leur objectif est rempli, le saké est on ne peut plus clair. Ensuite, l'étape numéro 11, c'est la pasteurisation. Donc, on pasteurise le saké pour le stabiliser, stoppant par là même tout processus de fermentation en bouteille. Grâce à ce procédé, le saké peut être conservé plus longtemps. La pasteurisation se fait généralement en deux étapes. Donc, celles-ci interviennent au bon vouloir du brasseur, après la clarification, après la réduction ou après la mise en bouteille. Certains sakés ne sont pas pasteurisés, donc il s'agit des nama, qui sont un mystère à eux seuls. Ensuite, l'étape numéro 12, c'est le vieillissement. Donc la maturation ou vieillissement dépend du type de saké. Certains sont prêts immédiatement et embouteillés juste après la presse. D'autres sont vieillis plusieurs années, donc ce sont généralement des sakés purs, sans ajout d'alcool, alors que les sakés aux saveurs fruitées sont souvent consommés jeunes. Ensuite, l'étape numéro 13, c'est l'ajout d'alcool. Donc l'ajout d'alcool concerne de nombreux sakés. C'est une pratique qui permet aux brasseurs d'augmenter leur volume de production et donc leur marge. Elle permet aussi de faire ressortir plus facilement certains profils aromatiques. Donc cet ajout d'alcool est rentré dans les mœurs lorsque certaines conditions sont respectées. Ces sakés peuvent même être considérés comme premium. L'alcool ajouté est généralement un alcool à 95 degrés, issu de canne à sucre. Il peut permettre de multiplier jusqu'à 3 fois la quantité produite initiale. De plus en plus de brasseurs traditionnels se battent pour que cette pratique d'ajout d'alcool cesse. Un saké sans ajout d'alcool se nomme Junmai, cette appellation figurant très souvent sur l'étiquette quand c'est le cas. On a ensuite l'étape 14 qui est donc l'étape de la réduction. La réduction est un ajout d'eau, donc suite à l'étape du moromi, le mélange obtenu atteint entre 17 et 20 degrés en alcool, un record pour une fermentation naturelle. Le brasseur ajoute alors de l'eau pour descendre le niveau d'alcool à environ 15 degrés, et certains sakés ne sont pas réduits. La dernière étape, c'est l'étape numéro 15, il s'agit de l'embouteillage. Donc l'embouteillage, c'est, vous l'avez deviné, la mise en bouteille. Celles-ci sont traditionnellement de 1,8 litre, appelée ishobin. Donc au temps des samouraïs, on mesurait la quantité journalière de riz nécessaire grâce au masu, des petites boîtes en bois ouvertes. La taille standard du masu est le go, soit 0,189 litres, d'où le résultat 10 go égale 1,8 litres. Il existe à présent des bouteilles standards de 72 centilitres qui ont la même origine, 4 go égale 72 centilitres et des poussières. Cette taille convient mieux au réfrigérateur et cela permet au brasseur de proposer ses ishobin au double du prix d'une 72 centilitres, ce qui offre une économie d'échelle intéressante pour le consommateur. Voilà, on continuera à parler des secrets du saké la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter tout de suite une autre chanson, une petite chanson live de Seikima 2 qui s'appelle donc Fire After Fire, et on viendra juste après pour la présentation du manga Brynhild in the Darkness.
Fire. 이 물이 요리 어떠세? 마차오!
Donc c'était Seikima 2 avec la chanson Fire After Fire, la version live. On passe maintenant à la présentation du manga Brynhild in the Darkness, du titre original Goku Koku no Brynhild. Donc c'est un seinen de genre action, comédie, fantastique, mystère, romance, science-fiction, tragique, qui a été écrit par Okamoto Lin et prépublié dans le shukan Young Jump. La version japonaise est parue en 2012 aux éditions Shueisha avec un total de 18 volumes qui terminent la série, et la version française est parue le 25 septembre 2013 aux éditions Delcourt Tonkam, avec également 18 tomes. Vous pourrez retrouver Brynhild in the Darkness dans le commerce pour un prix de 9,35€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus, et il existe une adaptation en animé de 23 épisodes, qui ont été diffusés du 6 avril au 29 juin 2014, et qui est disponible aux éditions Kazé en DVD Blu-ray, ainsi qu'un épisode spécial de 20 minutes qui a été diffusé le 24 septembre 2014. Pour survivre, peut être considéré comme un meurtre, voici l'histoire d'un adolescent qui tente d'aider un groupe de jeunes filles, utilisées comme armes et tuées à la moindre désobéissance. Donc le résumé de cette série, lorsqu'il était jeune, Ryota Murakami était ami avec Kuroneko, une fille de son âge qui croyait en l'existence des extraterrestres. Voyant Ryota sceptique, Kuroneko décide de trouver un moyen de la lui prouver, mais un accident tragique se produit. Ryota est gravement blessée, tandis que Kuroneko meurt. Désormais lycéen, Ryota n'arrive pas à oublier son ami d'enfance. Afin de tenir sa promesse de prouver l'existence des extraterrestres, il s'inscrit au club d'astronomie de son lycée. Un jour, une jeune fille nommée Kuroa Neko, ressemblant exactement à son ami d'enfance, débarque dans sa classe. Cependant, la jeune fille lui affirme qu'elle ne le connaît pas et lui révèle qu'un accident au cours duquel il va mourir, est sur le point de se produire. Voilà, donc Brynhild in the Darkness à retrouver en 18 tomes aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Goku Goku no Brynhild, donc c'est Brynhild in the Darkness Ver Ejected, qui a été composé par Tokisawa Nao, et on reviendra juste après pour parler du volume 6 de Harry Foreta de Zéro à Héros. C'était la musique Brynhild in the Darkness version Ejected qui a été composée par Tokisawa Nao et qui a servi de premier opening pour l'anime Goku Goku no Brynhild. On passe maintenant à la chronique du volume 6 de Harry Foreta de Zéro à Héros. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, drame, fantasy qui a été écrit par Chuni Suki, dessiné par Roga avec le chara-design de Takayaki et qui a été prépublié dans le Overlap Comic Online. La version japonaise est parue aux éditions Overlap avec un total de 8 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 6 tomes. Ce volume 6 est sorti le 1er septembre 2021 au prix de 7,99€, et le volume 7 est prévu pour le 8 décembre 2021. Je rappelle aussi que la série est pour public averti à cause de la violence modérée. Donc le résumé de ce tome, maintenant accompagné de Tio, l'homme dragon, Hajime et ses compagnons retournent à Ur. Menacés par une armée de monstres, la ville est en grand danger. Le jeune homme décide toutefois de l'abandonner à son triste sort, du moins jusque jusqu'à ce qu'Aiko parvienne difficilement à le faire changer d'avis. Grâce aux extraordinaires pouvoirs des membres du groupe, les créatures sont anéanties et l'éminence grise à l'origine de l'attaque arrêtée. Grâce au pacte qu'il a noué avec de puissants sorciers, cet ennemi manie la magie noire comme personne. Malgré le cri déchirant d'Aiko, une terrible détonation déchire la plaine. Donc après avoir vaincu le dragon de jet, celui-ci retrouve ses esprits et se libère du joug du sorcier qu'il avait asservi. Il s'avère qu'il s'agit en réalité d'une jeune femme du peuple dragon nommée Tio. Cependant, le sorcier a pris le contrôle de milliers de monstres, formant ainsi une véritable armée qui marche vers Ur, la ville où Aiko, la professeure d'Hajime, enseigne l'agriculture aux habitants de ce monde. La mission d'Hajime était de sauver et de ramener Will, le fils du comte coup d'état à Furen. Il a la ferme intention de ne s'occuper que de cela et de laisser les habitants d'Ur se débrouiller avec les monstres qui ne vont pas tarder à débouler. Mais c'est sans compter Aiko qui ne peut laisser des êtres humains mourir de la sorte. Elle insiste et argumente de toutes ses forces avec Hajime pour qu'il tente de sauver la ville. Son élève finit donc par accepter et se prépare activement pour la bataille d'Ur. Donc bien sûr, il pourra compter sur Yue, Shia et Tio qui a rejoint l'équipe. Nous avons là un excellent tome d'Harry Furuta avec une bataille épique de notre héros, accompagné de ses drôles de dames. Toujours plein d'humour, la quête du Go Home se poursuit, avec en chemin son lot de monstres dézingués et de demoiselles qui craquent pour Nagumo-kun. Et ayant déjà vu cette partie du récit en animé, je peux vous affirmer que le manga est bien meilleur. Donc une série à recommander sans hésiter aux amateurs d'Isekai. Voilà, on va pouvoir... C'était la chronique donc du volume 6 de Harry Furuta de Zero Aero que vous pouvez retrouver aux éditions Delcourt Okam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Kanashimi no Boat de Seiko Matsuda. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec la présentation du manga Harry Furuta Origin. Kiitos! Donc c'était Seiko Matsuda avec la chanson Kanashimi no Boat. On passe maintenant à la présentation du manga Hari Furuta Origin. Du titre original, Hari Furuta Shokokyu des Sekai Saiko Zero. C'est un shonen de genre action-aventure fantasy qui a été écrit par Shirako Merio, dessiné par Kochi Ataru, avec le chara-design de Takayaki et prépublié dans le comic Guardo. La version japonaise est parue en 2018 aux éditions Overlap avec un total de 6 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 1er septembre 2021 aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment un seul tome de sortie. Vous pourrez retrouver Hari Furuta Origin dans le commerce pour un prix de 7,99€ et l'âge conseillé pour le lire est de 12 ans et plus. Donc il n'existe pas d'adaptation en animé, mais il existe un light novel à l'origine de cette adaptation en manga. Donc Hari Furuta Shokokyu des Sekai Saikyo Zero qui est en cours de parution avec 5 tomes au Japon. Et on a également une suite en manga, donc j'en parlais tout à l'heure, Hari Furuta 2-0 Aero, qui est actuellement disponible avec 6 tomes parus aux éditions Delcourt Tonkam. Cette préquelle de la série Hari Furuta 2-0 Aero se déroule plusieurs années avant l'arrivée dans ce monde d'Hajime et nous plonge dans l'histoire des premiers libérateurs ayant défié les dieux. Donc, le résumé de cette série, Oscar Orks est un synergiste au talent incommensurable qui dissimule ce talent afin de couler des jours tranquilles. Milady Ryzen est quant à elle la détentrice d'une magie ancienne et divine et descendante également d'une famille nommée les Bourreaux. Ils décident alors de s'unir pour s'opposer aux divinités et sans le savoir, ils vont lier leur destin à celui d'Hajime et le feront devenir l'homme le plus fort du monde. Donc à savoir sur la série, Hari Furuta c'est 4 spin-offs, 2 millions d'exemplaires vendus au Japon en 6 volumes, et une série télévisée diffusée sur Wakanim. La saison 2 de l'animé est d'ailleurs prévue pour la fin de l'année 2021. Voilà, donc on va pouvoir terminer l'émission avec la chanson Snow Magic Fantasy Twilight City Arrange, donc une chanson de Sekai no Owari. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
Snow Magic Fantasy 雪の魔法にかけられて僕は君に恋したもしかして君は雪の妖精ではオカルトのタグ今全く信じていなかったのだけれども君が住む山はスノーラン一年中雪の降るこの国で私は生まれたのと君は話してねえ私は夏を見たことがないの燃えるようなあの夏をそれを見るのが私の夢なのでもいいのこの世界は知らないほうがロマンチックなことも君に恋したもしかして君は雪のせい雪の妖精と No Fantasy 僕はこれまでの人生を誰にも愛されるI'm
君は妖精だから、やっぱり年齢は200歳とかなのかいと聞いたら、それはなんか無視されたね。え、命はいずれ終わるものよ、あなたと私は終わりが来るのなのに、なんで出会ってしまったの。あなたは幸せと同時に悲しみも運んできたわ。皮肉なものね、スノーマジックファンタジー、雪の魔法にかけられて僕は君に恋した。もしかして君は雪のせい、雪の妖精と。君は雪のせい、雪